Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Véronique Jacquier est avec nous, Louis de Raguenel, Gilles William Bendadel et Jérôme Béglé sont là en ce 1er mai. Je les en remercie grandement. La scène du jour, l'image du jour, c'est Raphaël Glucksmann, le candidat PS, place publique aux élections européennes, qui a donc été visé par des jets de peinture par des gens de gauche. Alors qu'a priori, il est de gauche quand même.
D'ailleurs, il a goûté, on comprend qui il vise quand il parle.
Bah, on va voir d'abord cette séquence. Du coup, alors, il est parti. Est-ce qu'on doit rester dans ces cas-là? Est-ce que tu dois aller les voir ou pas? Chacun se pose la question. Parce qu'ils vont pas.
Je pense que politiquement, l'effet victime est assez.
Vous croyez
important.
Avec sa capuche comme
la
ça, il repart.
C'est pas mal.
C'est oui, mais il sourit.
Oui, moi je sais pas. C'est-à-dire qu'il s'en va, il est exfiltré, parce qu'il ne lui aurait pas fait grand chose. Il y avait du monde autour. Il y a du monde autour, il y a des caméras.
Dans la manifestation, donc ça veut dire que le caméras. Service dans la manif a jugé qu'il était globalement quand même un peu en insécurité.
Alors, voyons la séquence. Voyons la séquence et on la commente après.
Résister à Poutine, monsieur.
C'est sidérant quand même, c'est la haine. C'est la haine contre Raphaël Glucksmann. Donc c'est des gens de gauche, sans doute d'extrême gauche, qui ont une haine, la bave aux lèvres.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il devient, en tout cas si on en croit les sondages, le leader de la gauche, c'est sa liste.
Ça en dit quand même un peu.
La liste LFI, la liste des Verts, etc. Donc ça crée un petit émoi dans le reste de la gauche.
Taillon-pièce.
Pièce salaud. Enfin, c'est incroyable.
C'est que ce sont de jeunes gens, quand même, de très jeunes
bien
gens
sûr.
Qui ont la haine. Donc, ça en dit long, quand même, sur une génération.
Ah, bon. Non.
Quoi?
Non, pas sur une génération. C'est des pauvres diables. Enfin, arrêtez de généraliser.
J'en sais rien.
Non, justement, je suis pas d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord. L'OPA que Jean-Luc Mélenchon fait sur Sciences Po, sur les universités.
Mais c'est 100 personnes, on va le dire tous les jours.
Non, mais Pascal, à chaque fois, on dit c'est rien, mais de fait, on parle de
ça. Par capillarité, ça infuse quand même. Alors, je suis désolé.
Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas.
Non, je suis désolé.
Désolé.
Je suis désolé. Votre Mélenchon, c'est pas 500 personnes. Non, vas-y.
C'est l'image à laquelle on assiste chaque jour que Dieu fait. De l'intolérance d'extrême gauche. Ils pouvaient être 12, ils pouvaient être 1000. Là, ils avaient des drapeaux.
Non, mais ça, c'est vrai.
Oui. Ils se conduisent vraiment avec une intolérance totale, fascisante. Ils sont conduits de la même manière avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui ne voulait pas prendre non plus un drapeau palestinien. C'est pareil, chaque jour. Et alors, cela étant, ma compassion, je dois le dire, est modérée par rapport à M. Glucksmann, parce que je ne peux pas dire que M. Glucksmann, d'abord, il a dit qu'ils ne sont pas démocrates. Il aurait dû dire, mais ce sont des petits fascistes. Je ne peux pas dire que le Parti socialiste soit spécialement illustré dans le combat contre l'extrême gauche. Monsieur Olivier Faure, on ne peut pas dire que ça soit le chantre de la liberté de gauche contre l'extrême gauche. Donc, d'une certaine manière, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Voilà ce que je pense.
Alors, je ne sais pas si j'irai jusque-là, parce qu'il faut quand même.
J'ai dit d'une certaine manière, chaque mot compte.
Bon, Jean-Luc,
vous savez à l'écouter.
Mais oui, on ne fait pas attention.
Mais pas assez attentif. C'est ça.
Ce que je vous propose, je vais noter vos paroles.
S'il vous plaît.
Voilà, ça va
être. Moi, je préférais.
Le grand homme.
Non, mais s'il pouvait y avoir un huissier, sans vouloir juridiser tout, s'il pouvait y avoir un huissier ici, je serais plus.
Alors, on pourrait pas faire un débat de lui contre lui.
Oui.
Gilles William contre Hugo Nadel.
Ça, vous me demandez beaucoup quand même.
Non, par se détester
là
les deux,
vous atteignez la limite de
non,
mon
je crois
spectacle.
Pas, je crois pas. Je
pense bon, que... Est-ce qu'on peut voir le sujet?
Non, c'est bien comme sujet.
Je voudrais qu'on voit le sujet. Alors, bon, on peut voir quelques tweets déjà. Je ne suis pas d'accord avec l'expulsion de Raphaël Glucksmann du cortège où il était, mais il aurait dû réfléchir à deux fois. Vous allez, c'est le mais.
toujours le mais il aurait dû réfléchir à deux fois avant d'accuser la France insoumise. Hier soir, 40 fascistes ont essayé de s'en prendre à Rima Hassan. Les indignations à géométrie variable, ça suffit. Les fascistes, je ne sais pas de quel côté ils sont, monsieur Mélenchon. Ouais. Donc je vous propose de voir le sujet de Solène Boulante.
Dans les rues de Saint-Étienne, Raphaël Glucksmann se fait bousculer. La tête de liste PS Place Publique aux élections européennes est prise à partie alors qu'il doit rejoindre le cortège de la manifestation du 1er mai. Arrosé de peinture, il est exfiltré par les services de sécurité et poursuivi par des manifestants nerveux. S'en suivent des échanges tendus.
En Géorgie, je résistais à Poutine, monsieur.
Interrogé sur l'origine des manifestants qui l'ont prise à partie, Raphaël Glucksmann reste prudent.
Moi, je ne les connais pas personnellement, donc c'est compliqué. On va voir qui c'est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques. Il y avait des drapeaux de Révolution permanente et de la France insoumise. Donc voilà. Ces gens sont des gens qui ne sont pas des démocrates. C'est tout. Ce n'est pas des démocrates. On le voit dans le comportement interne de leur parti, dans leur structuration, dans leur discours, dans leur violence. Et nous, on rompt avec ça.
Une agression condamnée par l'ensemble de la classe politique, de la majorité jusqu'aux Républicains et son chef de file, François-Xavier Bellamy.
L'extrême gauche n'a rien appris de son histoire. Il ne lui manque que le pouvoir pour retrouver la folie totalitaire. Chaque jour montre combien la NUPES aura été une faute pour ceux qui se sont rangés derrière elle. Aucun désaccord ne justifie la violence.
De son côté, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, réfute toute accusation.
Je note qu'il aurait dû réfléchir avant de parler et d'accuser la France insoumise, qui est le confort que ces gens se donnent à toutes circonstances.
Selon une dernière étude, la liste Glucksmann réunirait 14% des intentions de vote, contre 17% pour celle de la majorité présidentielle.
Il dit que la France insoumise n'est pas peuplée de démocrates quand même, monsieur Glucksmann, c'est ce qu'il dit. Oui. Alors qu'il y avait un accord avec la NUPES, avec ses amis Olivier Faure, Boris Vallot, tous ces gens qui doivent leur place uniquement à Jean-Luc Mélenchon, comme nous le disons quasiment tous les soirs. Donc c'est intéressant, qu'on n'a pas entendu d'ailleurs, monsieur Faure, il a dit un mot ?
Non. Ouais, vous... Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu.
On ne l'entend plus. Hein.
Monsieur Boris Vallot, il a dit un mot ?
Non mais monsieur...
Il avait piscine aujourd'hui ?
Comment voulez-vous que monsieur Faure...
Non mais monsieur...
Coupe la corde qui le soutient en tant que pendu. Il peut pas. Vous lui demandez pas l'impossible.
C'est intéressant parce que c'est souvent des réactions à géométrie variable pour le coup. On a Xavier Bertrand a pris la parole aussi, soutien républicain à M. Glucksmann, menacé et empêché par l'extrême gauche de se rendre à la manifestation du 1er. C'est unanime, hein, c'est vraiment unanime, sauf en fait Jean-Luc Mélenchon. Parce que même Manon Aubry, qui n'est pas du tout en fait sur cette ligne, hein, en démocratie, tout le monde a le droit de manifester. Je déplore que Raphaël Glucksmann en ait été empêché et réprouve ses méthodes qui ne sont pas les nôtres. En ce 1er mai, notre objectif doit rester la juste lutte pour les droits des travailleuses.
Bah, c'est de l'écriture inclusive, mon cher Pascal. Travailleuses. Travailleuses, regardez.
Bon, oui, je vais vous dire, Manon Aubry.
C'est normal. C'est la France insoumise qui
parle. Sûr, ça fait plusieurs fois que je le dis, Manon Aubry, je l'ai reçue plusieurs fois à Europe 1. Elle n'est pas du tout sur cette ligne-là.
Ouais,
c'est quelqu'un avec qui vous pouvez échanger et qui vous pouvez poser des questions. Qui est plutôt sympathique, pour tout dire, ça compte.
D'accord, elle est tête de liste quand même. Hein.
Alors, oui, elle est en train de s'envoler la campagne.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est intéressant. Et vous verrez que Manon Aubry, je ne pense pas qu'elle soit sur la ligne de M. Boyard, de M. Mélenchon. Elle n'est pas du tout, me semble-t-il.
Hein. Pascal, il y a deux France Insoumises aujourd'hui. Oui. Il y a la France Insoumise indigéniste et il y a une autre qui ne se retrouve absolument pas là-dedans. Hein. En réalité, non mais un Alexis Corbière, par exemple, ne se retrouve absolument pas dans cette ligne-là. Et il y en a beaucoup d'autres. Et il suffit de voir les derniers sondages de Jean-Luc Mélenchon pour comprendre que les électeurs de la France Insoumise ne suivent absolument pas Jean-Luc Mélenchon dans cette dérive.
Ce drôle, on verra.
Ce qui est drôle, c'est que Mélenchon reproche à Glucksmann de se victimiser. Alors que, c'est ce que je vous disais hier, c'est dans l'ADN de l'extrême-gauche de se victimiser. Mais il n'est pas question que quelqu'un d'autre soit victime à leur place.
Les tensions, 1er mai, aujourd'hui, on va voir le sujet de Mathilde Ibanez.
Le cortège parisien s'est élancé à 14h, place de la République. Dans le calme, mais rapidement, un pré-cortège s'est formé d'environ 4500 personnes, avec plusieurs centaines de radicaux, d'après les forces de l'ordre. Des tensions ont éclaté en tête du cortège parisien. Une quarantaine de personnes ont été interpellées et 917 contrôlées. Sept membres des forces de l'ordre ont été la cible d'une bombe agricole. Ils ont été transportés à l'hôpital en urgence relative. Plusieurs autres policiers et gendarmes ont également été blessés. Des vitrines, un abribus ont été vandalisés. Un véhicule a été incendié. Arrivé sur les lieux, la propriétaire du camion ne peut que constater les dégâts.
On a voulu essayer d'éteindre avec des seaux d'eau, mais les CRS nous ont dit non, non, on n'y allait pas. Et après, bon, on a vu le camion cramer, quoi. Et je devais travailler demain avec, livrer des clients. Je vais retarder la livraison.
La police a dû faire usage de gaz lacrymogène. Quelques tensions pour cette journée internationale des travailleurs qui a réuni 18 000 manifestants à Paris selon la préfecture de police.
Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose à commenter aujourd'hui.
Cette dame qui a perdu son outil de travail.
Oui,
on
arrive à être satisfait lorsqu'il y a un minimum d'incidents.
Comme 600 oui. Black Blocs, c'est beaucoup.
Enfin, c'est quand même un échec. Hein.
C'est un 1er mai habituel.
Oui, 121 000 personnes.
Plutôt depuis un la loi El Khomri, on s'est un peu habitué.
Il y a eu des 1er mai qui étaient plus violents.
Bon, surtout plus d'achalandés en termes de manifestants. Mieux d'achalandés en termes de manifestants. Ouais.
Dans l'actualité, l'agression de Samara, ça c'est très intéressant. Mmh. Elle était avec nous ce matin. Je vous rappelle que Samara, sa mère, disait qu'elle avait été agressée parce qu'elle était harcelée. Bon, il y a eu une enquête administrative. Il ne s'est rien passé. C'est formidable. L'éducation nationale choisit peut-être de ne pas faire de vagues. 4 semaines après donc l'agression de Samara, 13 ans, l'enquête administrative n'a révélé aucun manquement fautif. Ça veut dire que la mère ment dans ces cas-là. Mmh. Puisque la mère, et nous l'avons eu ce matin au téléphone, dit « j'ai appelé à midi et demi, j'ai eu l'école, l'école m'a dit « attention, venez prendre votre fille, il y a des jeunes gens qui l'attendent et qui vont s'en prendre à elle ». Manifestement, cette conversation est niée dans le rapport de l'enquête administrative. Alors, on va voir le sujet de Marie-Victoire Dieudonné, et puis vous allez pouvoir me donner votre avis. Est-ce que tout ce monde-là, finalement, met la poussière sous le tapis, ou a peur, tout simplement, parce que c'est très difficile. Pour le directeur de l'école, c'est très difficile. Il est dans une enclave, là-bas. Pour les profs, c'est très difficile. Pour tous ces gens-là, c'est très compliqué de prendre la parole. Alors, on se tait.
Voyons le sujet.
Ma lettre croissant, mais pas de possibilité d'établir l'existence de harcèlement scolaire. Ce sont les conclusions de l'enquête administrative de l'agression de Samara, rouée de coups le 2 avril dernier. Sa mère, qui avait demandé à ce que sa fille ne sorte pas de l'établissement, se sent trahie.
Par manque de preuves au niveau du relevé téléphonique, on en conclut que j'ai menti, que ma fille elle n'a jamais été harcelée. On explique que le professeur ne m'a jamais prévenu que Samara allait se faire frapper. Il m'a dit les mots mot pour mot, je crains pour votre fille, venez la récupérer. Ces jeunes ne sont pas là pour parler avec elle, ils sont venus pour la frapper.
Interrogé, le professeur principal nie l'avoir informé d'un danger imminent. Selon la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, la vie scolaire a suivi de manière resserrée l'adolescente de 13 ans et constaté la dégradation de ses relations avec les élèves comme avec les adultes.
Au vu des éléments portés à sa connaissance, ce collège a fait tout ce qui était en sa possibilité. Il y a eu un suivi de l'élève, elle a été entendue plusieurs fois par les équipes éducatives avant le drame.
Une enquête judiciaire est également en cours pour laquelle 5 mineurs ont été mis en examen pour tentative d'homicide. Contrairement à l'enquête administrative, celle-ci pourrait donner l'accès aux conversations téléphoniques du jour du drame.
Bon, bah elle a bien été tabassée quand même, cette jeune femme.
Bah oui, mais... Alors, Pascal, s'il y a une certitude, c'est que Samara, oui, elle a été agressée, oui, elle est victime.
Bien sûr, ça s'est bien passé 10 mètres devant l'école.
Pascal, on est entièrement d'accord. Mais ensuite, c'est là où, en fait, il y a deux sujets. Il y a l'enquête judiciaire et il y a l'enquête de l'inspection générale. L'enquête de l'inspection générale cherche à établir les faits de ce qui s'est passé dans l'établissement. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la part de l'établissement? Moi, je note quand même un certain nombre de choses. J'ai lu le rapport. Il y a eu 51 auditions. C'est beaucoup, 51 auditions. Est-ce que les personnes qui font ce rapport prendraient le risque de minimiser, de passer
y en a
sous silence
qui sait, c'est le coup de fil.
Il y a eu 51 auditions de tous les personnels.
Mais ils ne savent pas les autres s'il y a eu le coup de fil,
Pascal,
ou pas.
On va parler du coup de fil. Oui. Que s'est-il passé? Les enquêteurs de l'inspection générale de l'éducation nationale demandent à la mère de montrer l'historique des appels. La mère répond, j'ai tout effacé, je ne retrouve pas l'historique. Elle n'est pas capable de fournir la preuve. Ensuite, toutes les personnes qui décrochent le téléphone, Pascal.
Si on me demande Pascal, sur le téléphone si j'ai appelé il y a 3 semaines, vous croyez que j'ai la preuve?
Bah, si vous avez tombé.
Il n'y a que l'opérateur.
Non, c'était quelques jours après.
C'est pas il y a 3 semaines. Il n'y a que l'opérateur.
Non, l'historique d'appel, moi je l'ai depuis 2 ans ou 3 ans.
Vous avez votre historique d'appel depuis 2 ans?
Je ne l'efface pas.
Dans votre téléphone, oui.
Oui,
je ne sais pas, il y a 3 semaines.
Je vous montrerai. Pascal. Premier élément. Deuxième élément, toutes les personnes...
Ce que vous dites, c'est que la mère ment.
Toutes les, d'après ce que je lis, oui. Et toutes les personnes, Pascal, toutes les personnes qui ont été entendues et qui sont amenées à décrocher le téléphone dans l'école ont été entendues, tous disent la même chose. Soit il y a un complot de la part de ceux qui ont décroché le téléphone, soit il y a au moins un doute. Bon. Et dernier élément, moi, qui me fait vraiment douter de la version de la maman de Samara, c'est qu'en fait, les enquêteurs ont demandé à entendre Samara. La mère a refusé. Vous ne pouvez pas contraindre un élève à discuter avec les inspecteurs, puisqu'il faut l'accord parental. Bon. Donc, moi, j'attends beaucoup de l'enquête judiciaire.
Eh bien, c'est possible.
Mais
vous avez raison.
Globalement, je veux bien que l'éducation nationale mette la poussière sous le tapis, mais là, il y a un vrai travail d'enquête qui a été conduit.
Je pense que
le risque est trop important. Vous imaginez ce qui est établi dans le rapport là dont on vient de parler est complètement contredit par l'enquête judiciaire. Alors là, c'est un fiasco politique, c'est un fiasco
total.
Écoutez,
je suis un peu chat échaudé, craint l'eau froide. J'ai vu ce qui s'était passé avec l'affaire Samuel Paty. Hein. Pardonnez-moi de le dire comme ça.
D'accord, mais c'est pas
donc,
Pascal. Maintenant, vous aviez.
Le rapport de l'éducation nationale était très clair, assez rapidement.
C'est-à-dire
Le rapport d'Éducation nationale a dit les choses sur ce qui s'était passé autour de l'affaire Paty. L'Éducation nationale n'a pas essayé de minimiser les choses.
Ah bon?
Ah ben non, ils ont reconnu qu'ils avaient sous-estimé la menace.
Non mais là, je crois qu'il ne faut pas faire fausse route. Il y a d'un côté, effectivement, le profil d'une mère et de sa fille qui peut peut-être poser question.
Oui.
La fille, visiblement, était aussi mise en cause pour des problèmes relationnels avec d'autres camarades. Donc,
elle était aussi harceleuse.
Voilà.
Ça n'enlève rien, mais elle était aussi harceleuse.
Elle avait un profil harceleuse. Maintenant, attention, quel que soit le profil de ces deux femmes, mère et fille, ça n'enlève rien à ce qu'il y a de dramatique et ce que ça pose quand même comme fait de société, de se faire massacrer devant son collège. Voilà, ça n'enlève rien à ce fait-là qu'on n'est pas capable de traiter politiquement.
Bon, écoutez, on va marquer une pause dans quelques instants et on parlera évidemment de Matisse. Je voulais vous donner peut-être la réaction de Mme Belloubet, qui avait rapporté les premières conclusions, c'était hier, hein, déclarant que le collège où était scolarisée Samara n'a pas fait preuve de négligence. Je puis vous assurer que mon bras ne tremblera pas, avait-elle dit, notamment le 4 avril dernier. On va marquer une pause, c'est le 1er mai aujourd'hui.
Ah.
Attendez un petit...
Vous auriez pu offrir un petit muguet à ma voisine.
Voilà, vous auriez pu, pour vous racheter d'hier...
Il me harcèle, c'est du harcèlement.
Mais qu'est-ce que vous avez fait?
Il me demande
qui peut croire un instant que vous pouvez être victime de harcèlement, j'ai le William. Personne.
J'ai qu'un seul harceleur.
Mais personne.
J'ai qu'un seul harceleur dans ma vie.
C'est parce que...
C'est tout. J'aurais attendu 55 ans pour avoir un harceleur. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Voilà.
Ça vous fait sourire en plus.
Vous le vivez bien, vous
dites. Ça n'a pas l'air de vous dévaster, Gilles William.
Je prends sur moi, mais c'est une grande souffrance.
Bon. Voilà. Je rappelle qu'on peut vous écouter sur Europe 1 désormais, lors du déjeuner.
Absolument.
Avec...
Tout à fait.
Notre amie Céline Géraud, et c'est important de le dire.
Très sympa.
Et les audiences progressent.
Exactement.
Grâce. Comment ça va blesser ma modestie, mais c'est
comme
ça.
Il y a un avant et un après, votre arrivée.
Votre modestie est blessée depuis longtemps.
Pardon, mais regardez les chiffres.
Bien sûr.
Attendez.
Comment se porte votre modestie?
Maîtrisez votre jalousie et regardez les chiffres.
Cher Gilles William, comment se porte votre modestie depuis le temps qu'elle est blessée?
Elle est difficile, c'est quoi?
Non, mais. C'est la question la plus fondamentale de la journée. T'as vu comme j'ai séché?
Non, elle est proche de rendre la.
Non mais c'est vrai, je le dis avec Céline Géraud chaque jour, aujourd'hui, elle est très sympathique, et puis c'est un espace de liberté où on retrouve Philippe Bilger vient de temps en temps, Jean-Claude Dacier vient, Paul Melun, Olivier Dartigol,
Georges Fenech,
exactement.
Qui m'a révélé comme
que des hommes, c'est formidable.
Comme je suis d'une ignorance crasse en matière sportive, et que je parlais avec désinvolture et décontraction à Céline Géraud, je ne savais pas que c'était une sportive.
Bah, bien sûr.
Ancienne vice-championne du monde de judo.
Bien sûr. Ah bah oui.
Et vous vous intéressez pas aux gens avec lesquels vous travaillez.
Moi, il les contredit deux fois, je vais éviter.
Bien sûr.
Vous posez des questions.
De judo et de karaté, non aussi.
Non, judo.
C'est rare de parler un peu trop de vous, Gilles William.
On n'est pas sportif de.
Vous vous intéressez peu aux gens avec lesquels vous débattez, visiblement.
D'accord.
Vous voyez, mais le mal court.
Le mal est contagieux.
Mais c'est terrible.
C'est ça que vous voulez dire.
J'ai quelque chose, ça fait peur. Il y a peut-être d'autres explications.
Puisque vous parlez de sport, sachez qu'il y a PSG, il y a tout ce soir PSG, c'est sur Canal, bien évidemment. On marque une pause et il est rare qu'on soit à la fois judoka et karaté.
Moi, Fenech me raconte ça, j'y crois, moi.
Oui.
En général.
C'est pas la même chose.
C'est Fenech qui m'a raconté ça. Allez voir Fenech.
Faites attention aux sportives de haut niveau.
Il faut toujours faire extrêmement attention.
Ah bah oui. Là. Ah oui, oui, oui. Je vois votre vision. Je vois votre vision. Alors c'est, pas le, c'est quoi? C'est le basket? C'est quoi? C'est le basket.
Faites très attention.
D'accord.
La pause.
Ils ont du tempérament.
Très sympathique, vous demain. Bon, allez.
La pause.
Allons-y. Je dis que c'est possible.
Là, ça crée des...
Matisse. Matisse, le père de Matisse s'est exprimé hier sur France 3. Le père de l'adolescent de 15 ans, tué à coups de couteau à Châteauroux, a souhaité avant tout que justice soit faite. Je vous propose d'écouter ce témoignage qui effectivement est un témoignage extrêmement émouvant.
C'est le témoignage d'un père brisé et en colère.
Matisse était un petit gamin joyeux et heureux. Il aimait tout le monde.
Christophe Marchais, le père de Matisse, prend la parole pour rendre hommage à son fils. Il réclame une justice des plus fermes, tout en mettant en garde sur une quelconque récupération.
Je ne veux pas que ça monte au créneau parce que l'agresseur, c'était un Afghan, quoi, comme on l'entend depuis deux jours. C'est surtout... alors oui, je veux que la justice soit faite, parce que c'est surtout pour moi le meurtrier de mon fils. Il me paraît logique qu'il y ait justice. Et pour lui et pour sa mère.
Le père de famille interpelle les parents sur les fréquentations de leurs enfants.
Il faut pister les gamins, quoi. Je suis désolé. Il faut savoir où ils sont, à quel moment où ils y sont. Il y a des applis maintenant pour ça. Il faut s'en servir. Et puis la première fréquentation qui craint un peu, faut pas hésiter à couper les ponts de toutes les manières possibles.
À l'approche de la marche blanche prévue samedi prochain, Christophe Marchais en appelle au calme et précise qu'il s'agira d'une marche organisée par la famille et encadrée par les forces de l'ordre.
C'est un témoignage très émouvant, d'une très grande dignité, d'une grande pudeur, et ça dégage un amour formidable. Mais je ne vois pas de gens qui ne soient pas dans le calme dans cette affaire-là. Et chacun a le droit d'avoir un regard sociétal peut-être différent que celui que ce père de famille a sur cette affaire. C'est tout.
Moi, je suis impressionné par le calme, la mesure de ce monsieur. Il ne transparaît pas de haine dans ses prises de propos, de parole publique. Et... alors que c'est un des seuls cas où la haine serait autorisée quand vous perdez votre fils dans des conditions aussi atroces. Après, ce qu'il dit est frappé au coin du bon sens. Il faut, au moment où on voit que des enfants, des adolescents, des mineurs sont en train de glisser sur le chemin, sur une mauvaise pente, il faut savoir les arrêter plus tôt, plus vite. Alors, est-ce que c'est à l'éducation nationale de le faire? Est-ce que c'est des micro-peines de prison? On a eu le débat la semaine dernière, je crois, notamment avec Gilles-William Golnadel. En tout cas, on ne fait pas assez vite, assez fort, assez spectaculaire. Et il y a toujours les fameuses excuses de minorité. Il y a toujours la peine de liberté courante.
Chacun analyse ce qui s'est passé avec sa grille de lecture. Hmm. L'autre analyse possible, c'est de dire attention, vous faites venir sur le sol de France une immigration avec des codes, des mœurs, une culture extrêmement différente.
Moi, je pense que ça va au-delà de ça. C'est une partie du problème et ça va au-delà de ça.
C'est une grande partie du problème. Jérôme, il y a quand même une surreprésentation des faits de délinquance. Le tabou ultime, c'est aussi la délinquance sexuelle, surreprésentation d'étrangers dans les viols partout en France. Et là, s'agissant de ce cas-là, moi, ce qui me choque, c'est que c'est même pas l'immigration, c'est le droit d'asile. Parce que ce sont des Afghans et que nous accordons un droit inconditionnel à toute personne qui vient de ces pays-là. Et avant la chute de Kaboul, l'Allemagne n'accordait pas
l'Afghanistan n'est plus en guerre
aux Afghans.
L'Afghanistan n'est plus en guerre. Mais
elle est plus en guerre, mais elle est aux mains des talibans qui violent les femmes, les privent de liberté.
Mais on n'est pas l'oasis, l'unique, l'exclusive oasis de paix et liberté dans le monde.
En profondeur, les conditions du droit d'asile, c'est une évidence.
Mais Jérôme, faut tout revoir en profondeur. C'est-à-dire que je ne vais pas le répéter, le logiciel en France, il date des années 70, 80, 90. Il n'est plus adapté à notre société. Il n'est plus adapté.
Il y a 50 ans, ou il y a 40 ans déjà, il y avait M. Cartier qui officiait dans Paris Match, qui disait déjà la Corrèze avant le Zambèze.
Raymond Cartier. Oui.
Raymond Cartier.
Non, mais on peut peut-être.
Véronique Jacquier.
On peut peut-être rappeler quand même aussi pour l'Afghanistan qu'il y a des soldats français qui sont morts là-bas.
Bien sûr.
Et qu'on les a accueillis, ces Afghans, d'une façon inconditionnelle depuis 6 ans. 100 000 sont arrivés sur le sol de France. 100 000 avec un droit d'asile inconditionnel, avec une famille. Là, il n'y a pas que le fils qui est dysfonctionnel, il y a aussi la mère, il y a le père.
La fratrie.
Et on voit l'État qui est impuissant à prendre en charge ce type de famille complètement dysfonctionnelle. Donc là, il y a non-assistance à citoyens français en danger, il y a non-assistance à une jeunesse en danger. Moi, je suis d'accord avec Pascal, ça suffit. Après, ce père, vous dites, il est calme, mais il est sidéré, il est broyé par la douleur. Et évidemment, ce n'est pas lui qui va pouvoir porter des combats politiques. Et la marche blanche est encore un aveu d'impuissance, même s'il faut qu'elle ait lieu, bien entendu, mais pour régler tout ce qu'il y a à régler.
Il y a des mots, oui, il y a des mots. Il y a la marche blanche qui est forcément digne et silencieuse. Et quand ce sont les émeutes en banlieue, c'est la colère noire. Même les mots sont révélateurs.
La politique européenne à présent, les élections plus précisément avec le scrutin du 9 juin et ce sondage Odoxa qu'on vous montrait hier avec le Rassemblement national aujourd'hui qui est à 32 points et avec une différence extrêmement importante avec la liste suivante. Je crois que vous allez pouvoir apercevoir la majorité, c'est le double. Alors évidemment, il y aura peut-être un avant et un après scrutin présidentiel, européenne plus exactement, parce que si ne fait que monter pour le moment Jordan Bardella. Et aujourd'hui, il y avait effectivement ce 1er mai, prise de parole de Marine Le Pen, de Jordan Bardella également. C'est traditionnellement une fête pour le Rassemblement National, le 1er mai, dans le temps Jean-Marie Le Pen allait devant la statue de Jeanne d'Arc. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen qui propose de défendre les enfants de France.
Nous voulons que la France défende ses enfants, défende ses intérêts en Europe, comme le fait actuellement l'Allemagne et tous les pays du monde. Ils ont raison de le faire. Et nous avons raison d'exiger de nos dirigeants qu'ils nous défendent. Nous cultivons un esprit français qui se fait un devoir d'écouter la parole de tous parce que c'est une marque de respect de l'autre, une exigence pour progresser et un commandement démocratique. Un esprit français qui sait inventer les voies nouvelles, les idées qui élèvent l'homme, les systèmes qui le protègent.
La sanction, elle l'appelle également Marine Le Pen, elle le réclame, un vote sanction le 9 juin.
Pour tout patriote français, la participation à un scrutin dont l'enjeu est le sort du pays est un impératif, un devoir, un commandement. Et puis nous le savons, nous devons les contrer, nous devons les sanctionner, nous devons les congédier, nous devons donner à ce pouvoir la plus cinglante sanction électorale qu'on puisse lui infliger. Et cette sanction, elle sera mesurée, n'en doutez pas, à l'écart entre la liste emmenée par Jordan Bardella et celle des déconstructeurs macronistes. Quand le sort du pays est en jeu, on ne s'égare pas. On groupe les forces de la France. Un seul jour, un seul tour, un seul vote, Bardella.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un effet Bardella, les 32% Bardella, est-ce que vous pensez que si Marine Le Pen était tête de liste du Rassemblement National, elle ferait le même chiffre?
Je pense que oui. Je pense qu'il y a un effet RN pour au moins trois raisons. Le premier, c'est que les deux préoccupations des Français, c'est le niveau de vie et puis l'immigration. Ils pointent les deux complètement. Le deuxième, c'est la descente un peu aux enfers de la Macronie. Et la troisième, c'est qu'on a changé de diable. On a changé de diable. Il n'y a qu'un seul diable dans le monothéisme politique. Le diable maintenant, et c'est pas mal trouvé, c'est l'extrême gauche. C'est ce qui explique ça. Donc, à mon avis, ce serait Bardella ou Marine Le Pen, ça serait exactement le même score. Voilà ce que je pense.
J'ai du mal à répondre à votre question parce que par principe, par définition, on ne peut pas le savoir. Je constate quand même qu'il y a un rajeunissement de la classe politique, il y a un coup de balai sur d'anciennes figures qu'on a beaucoup vues, trop vues. Que Marine Le Pen, mine de rien, ça fait quand même 15 ans qu'elle est là, qu'elle est au centre du jeu politique. Et Jordan Bardella, qu'on le veuille ou non, c'est une frimousse nouvelle, c'est un appel d'air. Et je pense que cet appel d'air lui est profitable. Et que contrairement à ce que dit Gilles William,
ça fait sans doute gagner 1, 2, 3 points à la liste Rassemblement.
Jordan Bardella qui devrait a priori échanger avec Gabriel Attal sur une grande chaîne de télévision, ce pourrait être TF1 dans un duel si tant est que Gabriel Attal accepte. Je ne sais pas où ça en est encore, il y avait négociation ces dernières heures.
Ce sera intéressant parce que là, on voit dans l'attelage avec Marine Le Pen qu'on sait ce que pense Marine Le Pen. C'est une forte incarnation. Et Jordan Bardella prend bien la lumière, mais on ne sait pas encore franchement ce qu'il pense par lui-même. Hein.
Mais pourquoi Gabriel Attal refuse?
D'abord, Gabriel
Attal. Jordan Bardella, pardonnez-moi, moi je ne le connais pas.
Mais non, parce que or, Gabriel Bardella pourrait faire justement remarquer que c'est à Mme Hayet. De parler.
Voilà. Donc, en fait, Gabriel Attal est réticent à entrer dans la campagne des européennes et c'est le président de la République qui le pousse à être dans la lumière. Et c'est plus à Valérie Hayé, effectivement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est candidat et l'autre qui est Premier ministre. Donc,
Il y a un argument qui vaut ce qu'il vaut, qui est de dire à partir du moment où je suis Premier ministre, je discute avec la présidente du premier parti d'opposition. Présidente du groupe, du parti de position, qui est Marine Le Pen, et pas avec un candidat d'une élection.
Mais bien sûr.
Qui est un peu moins mon
ma préoccupation. La vérité, c'est qu'il a surtout. Alors, il est doué quand même, Gabriel Attal. Deux sont doués, d'ailleurs, a priori. Deux sont doués.
Deux figures qui ont émergé ces 5 dernières années, il n'y en a pas d'autres.
Bien sûr. Mais il n'y en a pas d'autres.
Trouvez-moi un troisième.
Il y avait Quatennens.
Oui,
il y avait la France Insoumise.
Sigy.
Mais Gérald Darmanin,
il était là avant.
Mais Pascal, dans l'histoire du débat, ce qui est amusant, c'est qu'au fond, aucun des deux n'a envie de débattre avec l'autre. Et aucun des deux n'a intérêt à débattre avec l'autre. Jordan Bardella est dans une situation, si vous voulez, il est quasiment au maximum de son réservoir de voix. Il peut encore siphonner un peu l'air, peut siphonner éventuellement un peu Reconquête,
il peut aller plus haut.
Et donc, plus vous vous exposez quand vous êtes très haut, plus vous risquez aussi de perdre, de décevoir. Et de l'autre côté, Gabriel Attal est un petit peu dans la même situation. Il ne veut surtout pas prendre le risque de se faire humilier. Donc, vous avez deux fauves qui...
Deux fauves. Voir... De lionceaux, pour le moment. C'est-à-dire deux fauves. Bon, c'est pas Giscard et Mitterrand encore.
Et ensuite, un tout petit détail que je voulais vous rappeler.
De jeunes.
Un tout petit détail. Et moi, ce qui me frappe chez Jordan Bardella dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est la percée qu'il fait auprès d'un électorat senior, les retraités.
Oui.
Et ça, c'est un phénomène nouveau. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les retraités avaient été très anti-RN. Et je pense que ce qui se passe au niveau de l'économie dans le pays fait voler en éclats plein de certitudes chez des électeurs qui se disaient au moins Emmanuel Macron et son gouvernement, ils sont bons en économie.
Eh bien, oui, effectivement, au moins, comme vous dites, mais le Mozart de la finance écrit un requiem, manifestement, qui va coûter bonbon.
Il a écrit ça quelque part.
Oui.
Je veux dire que c'est pas Pascal qui l'a inventé.
Un échange.
J'ai lu ça quelque part.
Un échange.
La plume de Golnadel
Non, je vous en prie.
Je pensais que vous vouliez vous autociter.
Non.
Ça arrive. Ça lui arrive. Hein.
Mais oui, je sais.
Gabriel Attal, c'était aujourd'hui. Gabriel Attal, justement, a eu un échange avec un retraité.
Oui.
Parce que les retraités, ils ont peur. Et ils ont peur peut-être d'être ponctionnés, sanctionnés.
À Beaugency.
Exactement. Pas seulement les retraités.
Beaugency ou Jeanne d'Arc a mené des batailles. Moi, je pensais qu'il y avait une référence par rapport à Marion Maréchal. Je me suis complètement trompé. Beaugency, deux batailles menées par Jeanne d'Arc.
Bon, écoutez cet échange de Gabriel Attal. Aujourd'hui, a priori, les retraites, on n'y touche pas.
Entendu, c'est qu'ils vont encore taxer sur les retraites.
Il n'y aura pas de taxes, non.
C'est faux.
Il n'y aura pas de taxes. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et on va dire les choses.
Voilà.
C'est un peu parfois de l'instrumentalisation politique de certains qui veulent relayer des rumeurs pour donner cette idée-là, mais je vous garantis qu'il n'y aura pas de taxes ni sur les retraités, ni sur personne, parce qu'on sait qu'il y a un moment qui est difficile avec l'inflation. On se bat beaucoup pour que l'inflation recule. D'ailleurs, on a eu plutôt des bonnes nouvelles qui montrent que l'inflation ralentit, mais c'est pas encore visible dans le quotidien des gens. Ça. Et pour moi, l'important, c'est quand ce sera visible pour les Français. Mais évidemment, il n'y aura pas de taxation, pas d'augmentation d'impôts. Ça, je vous le garantis et je vous en fais la promesse.
Et puis c'est un jour assez historique, je pense, que ce 1er mai, puisqu'Emmanuel Macron n'a pas donné une interview à un journal de province, il n'a pas donné une interview à un journal étranger, il n'a pas tweeté, il n'a pas dit quelque chose de nouveau pour être au centre de la vie politique. C'est assez rare.
Oui, il est que
9h45. Il n'a pas pris la parole. Il n'a pas pris la parole aujourd'hui.
Il l'emporte tout à l'heure.
Il n'a pas pris la parole quelque part pour lancer une idée nouvelle qui le lendemain est parfaite.
parfois oublié. Donc c'est assez...
Il est peut-être alité ?
Non, 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 je ne crois pas. En revanche, Robert De Niro, vous avez vu cette vidéo avec Robert... Mais oui, alors, le courage, ça me fait toujours rire.
Pourquoi ?
C'est une valeur importante.
Ouais, mais je suis d'accord avec vous, mais...
Ça fait rire, le courage.
Vous savez qu'on peut être différemment courageux. Il y a des gens qui sont courageux.
Vous, je ne suis pas sûr que ce soit courageux, pour tout vous dire. On nomme parfois courage ce qui ne l'est pas forcément. Bah, je ne suis pas Robert De Niro. Quand même. Are you talking to me? Yes. Non, quand même, écoutez, chacun va rester à sa place quand même.
Est-ce qu'on pourrait écouter?
Eh bien, écoutons, effectivement. Alors, il est.
Parler de vous.
Attendez, vous êtes vraiment. Alors, écoutez, là, vous êtes gonflé. Bon, on va peut-être rappeler la séquence que vous allez voir. C'est Robert De Niro qui vient parler à UCLA. Avec des étudiants et voyez d'abord cette séquence ou le sujet de Solène Boulan, c'est comme vous voulez.
Ce n'est pas un film, c'est la réalité. Pour l'instant, vous devez écouter, travailler et faire votre travail. Restez avec tous vos soutiens, comme si vous disiez n'importe quoi, puis rentrez chez vous. Ils disent qu'ils vont recommencer. Encore. Vous ne voulez pas ça. Aucun d'entre nous ne veut ça. Allez, soyons sérieux.
Sur une pelouse entourée de barricades, des étudiants pro-palestiniens ont installé un campement en plein cœur du campus de UCLA à Los Angeles. Pancartes et parapluies à la main, certains arborent le keffieh, le foulard traditionnel palestinien. La situation se tend rapidement à l'arrivée des étudiants pro-israéliens. Ce partisan d'Israël au foulard rouge s'arme d'un bâton et tente d'arracher une barrière aux manifestants pro-palestiniens avant de se faire asperger par un produit. Plusieurs individus traversent la pelouse avec des barricades en acier et tentent d'atteindre le campement palestinien. Des affrontements éclatent entre les deux camps. Des feux d'artifice explosent au sol, un drapeau et des projectiles sont lancés. Une situation que les médias présents sur place qualifient de chaotique, nécessitant l'intervention de la police de la ville de Los Angeles. Des étudiants témoignent.
L'un de mes amis a une énorme bosse derrière la tête, car on l'a battu. Ils sont venus ici pour nous attaquer. Des gens sont venus nous agresser, nous frapper avec des battes et des bâtons. Ils jetaient tout ce qu'ils pouvaient sur nous.
À l'autre extrémité du pays, la police pénètre dans les locaux de l'université Columbia à New York. À l'aide d'une passerelle qui mène aux fenêtres, les forces de l'ordre s'introduisent à l'intérieur du bâtiment, puis délogent les manifestants pro-palestiniens barricadés à l'intérieur. Depuis mi-avril, des centaines de personnes ont été arrêtées sur une vingtaine de campus à travers les États-Unis.
On peut remettre peut-être en perspective la première scène de De Niro qui est forte.
Il était sur le campus de UCLA à Los Angeles et il a fustigé les étudiants qui bloquaient ce campus en leur expliquant que ce qui s'était passé le 7 octobre, ce n'était pas un film. C'est-à-dire que c'était la réalité, qu'il y avait eu des morts, que ce n'était pas une petite fête campagnarde. Donc il leur a... Non, parce que les slogans qui étaient prononcés sur le campus de UCLA étaient absolument proprement hallucinants. Donc il les a appelés à plus de responsabilité. Et c'est en cela, pour reprendre notre discussion de tout à l'heure, que je trouve que c'est assez courageux.
Oui, oui,
il
oui.
n'était pas obligé de le faire. Non,
vous avez raison.
Il l'a fait avec une vraie colère, avec des mots
forts.
Alors que beaucoup d'artistes anglais, anglophones, français,
vous avez raison, vous avez
leur chemin.
Bien sûr.
Voilà. Vous avez raison.
Pas la mode.
Vous avez raison.
Et Al Pacino a tenu, c'est amusant de voir ça, a tenu le même discours. Et vous voyez là des étudiants pro-palestiniens qui pensaient qu'effectivement, ils pouvaient s'en prendre aux Juifs impunément. Il est arrivé un moment où certains Juifs encolérés ont expliqué qu'ils n'étaient pas forcément en permanence des victimes expiatoires. C'est ce qui s'est passé.
Il n'y a pas, sur l'authenticité de la séquence de Niro, il n'y a pas.
Moi, j'ai pas de. Enfin,
alors, il y en a qui laissent à penser.
Ouais,
moi, vous pas... avez. Alors,
non, mais c'est important de le dire.
Non, mais bien sûr. Vous avez dans certains réseaux pro-palestiniens le fait de dire que
Elle est fausse.
Dit, c'est un film. Tout est un film. Non, il est en train de tourner un film. Il est à Rangs pour parler du 7 octobre.
Exactement.
Oui, alors, c'est important de mettre quand même ce doute.
Bien sûr.
C'est important de mettre ce doute.
Bien sûr. Instillé sur le studio.
Bien sûr.
Mais c'est faux. Autant que je le sache, c'est faux.
Absolument. J'ai une question, Pascal. Oui. Pour vous, vous parliez du courage. Oui. Je suis curieux de ce
que vous dites. Non, je pense que le courage, pour tout vous dire, c'est souvent physique d'abord. C'est quand tu mets physique en jeu.
Excusez-moi, écoutez, c'est pas n'importe quoi.
Très souvent, on aimerait que certains artistes soient courageux sans pour autant mettre leur vie en danger.
On ne va pas entrer dans la discussion, vous avez globalement raison. En revanche, je voulais vraiment vous parler de la Fédération française de football, parce que ça, c'est passionnant. Parce que le foot est un laboratoire de ce qui se passe depuis des années, qui n'était pas dit, et enfin, ça se dit. Bon, Philippe Diallo, qui est le président de la Fédération française de football, est très ferme. Il est d'ailleurs excellent. Il est droit dans ses bottes et il ne bouge pas. Donc il a demandé, il a rappelé dans un courrier au président de Ligue et de District qu'ils étaient tenus de faire respecter l'interdiction, par exemple, de porter des collants ou des casques. Parce que aujourd'hui, vous avez sur les terrains de football des demandes communautaires et des arbitres, notamment dans des divisions inférieures, ont été menacés, attaqués sur des terrains de France parce que des joueurs arrivaient avec des demandes communautaires et l'arbitre disait bah non. Vous ne mettez pas de collants, vous ne mettez pas ceci. Bon, dans le football, il y a cette demande-là. Alors, je voulais qu'on voit d'abord le sujet. Et après, il y a une réaction qui a fait polémique, qui s'appelle d'une jeune femme qui est journaliste, qui travaille d'ailleurs sur France Inter, qui s'appelle Nassima El Mouadem, et qui a fait réagir aujourd'hui.
Juste le titre.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Non, mais j'ai pas d'autre solution.
Là. Mais regarde, regarde ce que j'ai moi là. Voilà, c'est pas mieux comme ça ?
C'est un phénomène de plus en plus fréquent, la volonté de se vêtir pour cacher les genoux. Des tenues de plus en plus présentes dans les matchs amateurs.
Il y a eu, c'est vrai, une recrudescence en fin d'année dernière des signalements de comportements qui n'étaient pas conformes. Et le président de la Ligue du football amateur, Vincent Mollorgue, a adressé une lettre rappelée. Les grands principes qui sont aussi les valeurs du football, hein, parce que les valeurs de la République, dans lesquelles on inclut naturellement la laïcité, sont aussi les valeurs du football.
Pour éviter une montée du phénomène, la Fédération française de football a décidé de rappeler les règles en vigueur.
Il vous est rappelé que ces équipements ne pouvaient être autorisés que pour une raison médicale avérée. Ces équipements, s'ils sont autorisés par la Commission médicale fédérale, ne sauraient être portés avec des signes ostensibles, visibles, d'appartenance, tels qu'interdits par nos statuts. Le refus d'ôter ou de cacher la tenue ou le signe ostensible doit conduire à une application stricte de la règle. Les sanctions réglementaires et disciplinaires doivent alors être engagées.
Si un joueur ne respecte pas la tenue du règlement de la Fédération française de football, il risque de ne pas participer à la rencontre. En cas de refus de quitter le terrain, le match ne pourra se jouer.
Bon, cette information a été donnée par nos confrères d'RMC. Et Nassira El Mouadem a répondu à ce tweet et a fait un commentaire. Et elle a dit « pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte ». Bon, elle parlait sur précisément la disposition de la Fédération française de football. Et ça, c'est passionnant. Pourquoi c'est passionnant ? Parce que cette jeune femme est française. Elle est, je l'ai connue d'ailleurs, elle est passée par iTélé. Elle a travaillé à Canal+, elle est à France 2. Elle a travaillé aussi pour Le Monde, je crois.
Inter aussi.
Et elle travaille régulièrement à France Inter. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on arrive à un affrontement des communautés. Parce que pour cette jeune femme, et moi je ne lui en veux pas du tout, hein, Nassira El Mouadem, c'est sa culture, c'est son monde.
Ça vous plaît ce qu'elle dit ?
Mais si je peux terminer, je trouve ça... Vous n'entendez pas et vous n'écoutez pas. Évidemment que ça ne me plaît pas, c'est pas l'histoire de la France. Mais je ne reproche pas à elle, en fait. Je ne reproche pas du tout à elle. Parce qu'elle, elle est dans son couloir.
C'est invraisemblable ce que vous dites.
Mais non, c'est pas du tout invraisemblable.
Je trouve.
Mais on ne peut pas terminer une phrase.
Allons-y.
Ce que je veux vous dire, c'est qu'on va à l'affrontement des communautés. Et que Nassira El Mouadem, elle montre cet affrontement parce qu'elle vient d'une autre culture, elle a une autre demande et que cette demande, il ne fallait pas l'écouter. Mais c'est pas maintenant, c'est il y a 40 ans qu'il fallait pas l'écouter.
D'accord.
Fallait jouer l'assimilation. C'est trop tard maintenant. Oui. C'est ça que je veux vous dire. C'est trop tard.
Vous avez terminé ? Je peux parler maintenant ?
Oui.
D'accord. Alors je vous trouve, indépendamment de votre analyse, je vous trouve d'un paternalisme invraisemblable par rapport à Mme Mohamed. Mme Mohamed, elle ne représente pas l'ensemble non plus des gens originaires de ces pays-là. Elle insulte la France et les Français. Elle est comptable de cette déclaration raciste. Et je suis curieux de savoir quelle va, par exemple, être la réaction de France Inter. Est-ce qu'elle va avoir la même sévérité que le service public par rapport à M. Akili ou la même indulgence par rapport à M. Meurice? Moi, j'ai tendance à penser malheureusement que ça sera plutôt vers Meurice et la bienveillance parce que chez ces gens-là, quelqu'un qui déteste la France ne peut pas être tout à fait mauvais. Voilà mais ce que je pense.
Ce que vous dites n'est pas incompatible avec ce que je dis. Moi, je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites.
Non, mais vous lui dites, j'en veux pas cette dame. Vous m'avez commencé par dire, j'en veux pas cette dame. Moi, j'en veux beaucoup à cette dame.
Vous, vous avez bien compris ce que je veux dire.
Vous voulez permis que cette femme
moi, je signe à 100% ce que vous venez de dire. Mais nous allons à un affrontement des communautés.
Oui, mais je sais.
Oui, d'accord.
Nous y sommes, puisqu'elle-même, elle-même affronte, elle dit quoi ? Pays de racistes dégénérés, elle parle quand même du pays qui est le sien, a priori. Oui, elle est française. Elle dit, il n'y a pas d'autre mot, la honte. Donc vous voyez bien que, ça y est, nous y sommes.
Bien sûr.
C'est-à-dire que pour cette jeune femme, de demander... que les joueurs de football n'aient pas, par exemple, une demande religieuse ou communautaire, nous sommes un pays de racistes. Et quand dans ce dis-nous, je l'inclus, puisqu'elle est française comme moi.
Avec un total sentiment d'impunité.
Oui, avec un sentiment d'impunité, parce qu'elle le dit sur les réseaux sociaux.
Donc c'est pour ça que c'est terrible. Mais cette jeune femme, elle est représentative de dizaines de footballeurs. Vous n'imaginez pas ce qui se passe dans le sport. Je vous le dis sans arrêt, les demandes qu'il y a dans le sport. Vous voulez que je vous dise les clubs où tout est halal?
Mais vous dites que tout est foutu là.
Est-ce qu'il y a d'intéressant?
Ah ben je pense que ça va être
compliqué. Moi je trouve que ce courrier est l'illustration du fait qu'il y a une tentative quand même de.
Oui, parce que Philippe Diallo, vous avez raison.
Donc moi ça me fait espérer.
Mais au plus haut niveau, il n'y a pas de souci. Didier Deschamps, il a mis tout le monde. Il n'y a aucun souci au plus haut niveau. Allez dans les petits clubs.
Non, mais vous êtes là-dessus, je suis
d'accord. Allez dans les petits clubs. Allez le dimanche. Et voyez qui joue et surtout qui ne joue plus au football.
Moi, je pense que Pascal a raison. Le foot, c'est un laboratoire de ce qui nous attend dans les 10 ans qui viennent. Et c'est très, très grave si on n'est plus capable, parce que moi, je pense que c'est trop tard, de poser effectivement des limites pour qu'on soit encore capable de jouer ensemble. La journaliste qui vient de s'exprimer en est l'exemple même, puisqu'elle est dans l'impunité la plus totale. Sauf que quand vous parlez d'affrontement, Pascal, il y a d'un côté des personnes comme elle qui veulent l'affrontement, qui le désirent sans doute inconsciemment, puisqu'ils veulent s'imposer. Et puis de l'autre côté, il y a quand même toute une partie de la population qui est encore dans l'angélisme.
Mais c'est là où Gilles-William a raison, c'est que c'est dans toute impunité. Elle est au Bondy Blog aujourd'hui. Cette jeune femme traite la France de raciste. C'est-à-dire qu'elle importe une culture.
Qu'elle aille dans un pays.
Elle importe une culture qui est la sienne dans un pays qui n'a pas cette culture.
Mais pardon, mais.
Qui n'a pas ce.
Elle importe une culture qui est la sienne. À partir du moment où elle est française, pardon, elle devrait avoir.
Mais c'est l'échec de
thésaurus de culture.
Mais c'est l'échec de l'assimilation et de l'intégration. Nassira El Mohadem, elle parle effectivement quand voilà, c'est une enfant des années 80-90. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ?
Elle a Bondy Blog, elle remplace peut-être monsieur Mehdi Meklat qui est sous le manteau et changeait des messages pro-hitlériens. Ça aussi est Bondy Blog.
Après l'avoir nié.
Donc on verra.
Il était aussi à France Inter d'ailleurs. Il était défendu par.
Alors bon, par France Inter. Il est passé par perte et profit. On n'en parle plus. C'est fini.
Ah oui. Bah, oui.
Non mais c'est
on
intéressant
lui,
de voir.
Oui, mais on lui a donné sa moment, chance et le système
l'a aidé. On lui a donné sa chance 36 fois, oui.
Oui.
Mais je vous répète, ça c'est des choses taboues. Voyez qui joue au football aujourd'hui et voyez qui ne joue plus au foot aujourd'hui. Voilà, c'est simple. Donc
il y a une logique.
Et alors les journalistes ne feront jamais d'enquête là-dessus, bien évidemment. Mais ça s'appelle, il y a des sports, que c'est très compliqué
c'est
d'ailleurs.
C'est pas l'équipe qui va parler de ça, par exemple ?
Ah non, l'équipe ne parlera pas de ça. Ça, je vous le...
Pascal, c'est un exemple très parlant, parce qu'il y a une logique de conquête sur le terrain qui se voit, il y a une visibilité.
Mais c'est,
ça ressemble à ce qui se passe dans notre pays.
Il nous reste 3 minutes pour évoquer peut-être Ayrton Senna, parce que c'est, je ne sais pas si vous êtes passionné pour...
Moi, je me souviens, j'ai regardé le Grand Prix, me souviens des sentiments qui me sont passés, et je me souviens des commentaires d'Alain Prost, qui commentait sur TF1, et à un moment donné, on avait vu la tête ou un morceau du corps, le corps d'Ayrton Senna bouger, et on a tous cru qu'il était vivant. Et
J'espère qu'ils ont sorti.
Non, j'entends encore le commentaire. On était tous inquiets et on voit le casque bouger et les commentateurs disent ah bon, il y a peut-être un.
Il y a un mystère, hein, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est.
Une rupture de suspension.
Non, pas de suspension, de l'arbre. L'arbre de direction, ça s'appelle.
L'arbre de direction.
Les voitures n'étaient pas aussi sécurisées qu'elles ne sont aujourd'hui. C'est pour ça qu'Alain Prost avait arrêté. Il avait arrêté parce que c'était trop dangereux. La plus grande victoire d'Alain Prost, c'est d'être en vie.
Ça, vous avez raison.
Et ça, c'était.
Et vous vous rappelez ce qu'avait dit Ayrton Senna ? On l'entendait à l'époque depuis la voiture, une heure avant l'accident.
Il n'aimait pas sa voiture.
Non, we miss you. Tu nous manques.
Bien sûr, il n'aimait pas cette voiture. C'était une voiture de chez William. La veille.
Il avait réfléchi à ne pas prendre le départ de cette course.
La veille, Ratzenberger, dans les essais, était tué. Ruben Barrichello, qui était dans la même écurie que Senna, avait eu un accident extrêmement grave. Et depuis, il y a eu un mort en Formule 1. Et c'est terrible parce que c'est Jules Bianchi. Jules Bianchi. Depuis 1994.
Moi qui n'y connais rien, que l'automobile inspire peut-être moins de passion aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
La F1, c'est magique. La F1 sur Canal+, c'est magique avec Van Sterpa.
Oui, mais on n'a plus cette culture de la vitesse. Ce n'est plus possible.
Je le dis mal. Verstappen. Non, et puis on a Charles Leclerc qui est. Alors, il n'est pas français, Leclerc, il est monégasque. Mais bon dans ces cas-là, il est un peu français.
Oui. On a Esteban.
Non, je vous assure, ça marche très très bien, la F1. Ça marche très très bien. Très très bien. C'est un spectacle exceptionnel, et notamment auprès des plus jeunes, c'est exceptionnel.
On regarde beaucoup avec Gilles William.
Bon, ce soir, il y a PSG Dortmund, et c'est sur Canal. Et donc, on ne va pas être en retard. Monsieur Benkemoun, c'est à vous. Mais on vous écoutera quand même.
Je ne suis pas sûr, c'est ça qui me...
Si, on vous écoutera.
Voilà. Ah, regardez, on va même mettre un peu de...
Vous êtes dans le noir.
Un peu de lumière, c'est comme ça.
La lumière, s'il vous plaît, sur M.
Je suis un peu de noir.
La lumière fut.
Fiat Lux. Vous êtes fort.
Je vous annonce que demain soir, nous aurons comme invité le ministre de l'économie israélien. Il sera ici, on fera une émission en direct. Probablement qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines heures au Proche-Orient, puisque c'est la fin de l'ultimatum qui a été demandé. Il y a une pression importante d'Anthony Blinken, vous le savez, sur le Hamas. Qu'est-ce que ça va donner et quelles sont les conséquences partout dans le monde, y compris sur les campus américains. Vous avez montré les images tout à l'heure. Vous savez à quel point la situation est tendue. Tout ça est extrêmement lié. On en reparlera un peu ce soir également. Et puis, on va revenir évidemment sur les manifestations, la manifestation, enfin... Vous verrez tout ça dans un instant. Bon match, Pascal.
Merci beaucoup. Nouvelle amitié. Toutes nos pensées ce soir, une nouvelle fois, pour notre amie Audrey Misiraca, qui réalise souvent réalisé cette émission. Donc on pense à elle, Audrey, bien évidemment, comme on pense tous les jours à elle, Audrey Misiraca. Elle traverse une période difficile. Je voulais vous donner les indications, les noms plus exactement de ceux qui ont travaillé ce soir. C'est Denis qui était à la réalisation, c'est Hugo Trindade qui était à la vision, Maxence qui était au son. Merci à Benjamin Cuneo qui était avec nous, puisque Benjamin Cuneo a pris sa journée du 1er mai. Lucas Busutil était
pas très sérieux.
Guillaume Lafage.
Il en fait qu'à sa tête.
Demain, vous ne serez pas là ?
Non, je ne serai pas.
Vous allez nous manquer.
Et je prenais sur vous, qu'est-ce que je vous dis ?
Prenez le 1er mai.
Ce sont pour des raisons médicales, mais c'est tout. Bon. Je n'en dirai pas davantage par pudeur.
Merci à vous, bonne soirée.
Inflation de la langue.
Il y en a un autre qui est passé par là, il en a fait plus de publicité. Aussi,
c'est ça ? C'était Anatole, me dit-on, qui était
aussi. C'est la langue et les chiffres qui ont grossi.
Pour dégonfler un peu.
Merci.
Mais la méchanceté de mes contemporains, ça fait peur. Franchement.
Je pense qu'il faut que vous reposiez un petit peu. À tout de suite avec Olivier Benkemoun. Bonne soirée.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.